Seigneur, mon cœur soit ouvert avec joie devant ta face et devant ta présence. Parle-nous. C'est toi qui nous invites à ce lieu. C'est toi qui as préparé la table devant nous. Nous sommes là pour recevoir de toi que ton esprit nous parle et que ta parole nous transforme et que nous allions transformer le monde. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu très fort? Acclame, on acclame, on acclame. Alléluia! Demande à ton voisin pourquoi on a acclamé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi la raison de l'acclamation? Je sais qu'il y a ceux qui ont dit parce que le prédicateur a dit. N'est-ce pas? On a acclamé parce que nous avons un Dieu qu'il faut louer sans raison. J'allais vous demander d'acclamer toutes les fois que vous voulez, mais ça peut créer des désordres. Donc, on va acclamer quand il faut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On acclame très fort ce Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne d'être là et de partager de la part du Seigneur. Et merci au consistoire et au pasteur d'avoir permis que nous puissions faire cet exercice. Et je sais que nous serons bénis ensemble. La parole de Dieu est puissante. Pendant que vous écoutez les paroles, je voudrais que vous puissiez écouter l'interprétation du Saint-Esprit dans votre cœur. Les mots que je veux dire, ce sont les mots de ma préparation. Mais je voudrais, et ma prière est que le Saint-Esprit puisse interpréter ces mots à votre circonstance, interpréter ces mots selon l'appel qui est sur votre vie. Toutes les fois que vous vous trouvez dans la présence du Seigneur, il faut écouter deux fois. Il faut écouter les prédicateurs. Il faut écouter aussi l'interprétation que le Saint-Esprit est en train de vous donner par rapport à ce qui est en train d'être dit. Si vous écoutez seulement l'homme ou la femme comme outil qui amène la parole, vous allez manquer beaucoup. Vous allez rentrer et critiquer. Vous allez rentrer et dire on a ri, on a souri, on a été ravis. Mais combien d'entre nous peuvent dire, les prédicateurs ont dit un mot, mais ce que moi j'ai attendu, c'est une communication de l'esprit qui peut transformer ta vie, ta communauté. Et si nous venons avec cette attitude dans la présence du Seigneur, tu peux être béni pendant les annonces. Tu peux être béni pendant les actions de grâce. Tu peux être béni pendant que seulement un enfant passe ici. Tu peux être béni par un diacre qui fait un geste pour faire asseoir les gens. Je voudrais que dans la présence du Seigneur, que nous soyons attentifs, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce que l'Esprit du Seigneur est en train de communiquer à ton esprit. C'est pour cette raison que nous pouvons attendre et écouter le même serment, le même mot, mais nous allons quitter avec différentes bénédictions, parce que le Saint-Esprit va ajuster son interprétation à la vie de chacun, et selon là où vous êtes dans son parcours avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler des clés de l'impact à l'école de Néhémie. Les clés de l'impact à l'école de Néhémie. Si nous voulons être un peuple, des personnes, ou une nation, une paroisse qui crée de l'impact, il faut que nous allions à Néhémie pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de Néhémie et qui peut nous permettre de changer notre génération, nos familles. Si vous regardez dans la Bible, vous allez trouver que toute la fois que Dieu veut enseigner une chose à un peuple, il crée une école. Si tu veux apprendre la foi, Dieu t'envoie à l'école d'Abraham. Si tu veux apprendre à l'école de l'influence au niveau des nations, au niveau des présidents et des gens qui dirigent, il t'envoie à l'école de Daniel. Si tu veux apprendre comment avoir de l'influence dans une terre étrangère, quels que soient les avantages avec lesquels tu peux commencer, il t'envoie à l'école de Joseph. Si tu veux comprendre la grâce du Seigneur et comment Dieu peut élever la servante de la bassesse, il t'envoie à l'école de Marie. Si tu veux apprendre comment Dieu peut transformer une vie qui était fauchée et qui n'avait pas d'espoir, il t'envoie à l'école de Ruth et de Naomi. Dans la Bible, chaque personnage que nous voyons dans la Bible est toute une école. Et selon ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, il va vous envoyer à une école. Nous sommes dans la phase de notre église où nous sommes en train de construire. où nous sommes en train de mobiliser pour la construction, pour faire des choses physiques qui sont visibles, Dieu nous envoie à l'école de Néhémie. Parce que c'est lui qui a cette grâce de construction. Alléluia. Jusque-là, on est ensemble. On n'a pas encore commencé. Donc, Gershon, vous pouvez stopper les chronos. Ok, je commence maintenant. On a déjà commencé. Alors, je voudrais dire ceci. Nous serons dans les livres de Néhémie, mais je voudrais quand même prendre quelques minutes pour vous expliquer les contextes dans lesquels nous lisons ces livres, pour que nous puissions lire tout en comprenant ce que nous lisons. On est prêt? Alors, il y aura beaucoup de détails. Je préfère ceux qui écrivent de ne pas écrire et de seulement écouter. Vous pouvez écrire un résumé après. Le livre de Néhémie vient dans la Bible après le livre d'Esdras. Ça, c'est la première révélation. Si vous regardez le livre qui vient juste avant, oui, c'est une grande révélation pour cette... Waouh, je ne savais pas que c'était... Le livre de Néhémie vient juste après le livre d'Esdras. Et si vous regardez les textes de l'Ancien Testament, les textes juifs, le livre de Néhémie et le livre d'Esdras, c'était un seul livre. Ce n'était pas deux livres séparés. C'était juste le livre de Néhémie 1 et Néhémie 2. C'était un seul livre. Donc si tu veux comprendre le livre de Néhémie, il faut commencer par comprendre le livre d'Esdras. Parce que Néhémie, c'est une continuité du livre d'Esdras. Alors, je vous donne le résumé de ces deux livres en quelques minutes. J'espère que l'Esprit va m'aider à les faire très rapidement pour que nous ayons a bad eye view, donc l'idée générale de ces deux livres. Nous savons, ou nous connaissons tous l'histoire de Nebuchadnezzar qui est venu conquérir Juda et Israël. Il a pris à déportation les peuples d'Israël. Ils sont restés dans ce royaume pendant beaucoup d'années. Le royaume de Babylone a prospéré. Après des années, le royaume a été conquis par l'empire perse. Et le roi, l'empereur de l'empire perse s'appelait Cyrus. Si vous lisez même dans Ésaïe, vous allez voir que Cyrus, on le décrit même comme un prophète. On le décrit comme une main que Dieu utilise. C'est parce que Cyrus, quand il devient empereur de Perse et il conquit Babylone, il va trouver les Juifs qui sont partout que Nebuchadnezzar avait amenés. Et qui sont devenus des esclaves. Et il se dit, que font tous ces juifs ici dans mon empire? Il va donner l'autorisation à tous les juifs qui veulent rentrer chez eux de commencer à rentrer. Imaginez que quelqu'un vienne et prend Goma en otage et nous amène tous dans un pays que je ne vais pas mentionner. Et nous restons là pendant 70 ans. Certains d'entre nous mères, nous avons des enfants, les enfants naissent dans l'esclavagisme là-bas. Il y a un nouveau roi qui vous dit, ok, les Congolais de Goma, comme vous êtes ici, commencez à rentrer. Celui qui veut rentrer, qu'il rentre. C'est là où le livre d'Esdras commence. Avec Cyrus qui dit aux enfants d'Israël, vous avez l'autorisation de commencer à rentrer si vous voulez. Alors, il y a un monsieur appelé Zerubbabel. Dis à ton voisin Zerubbabel. Zerubbabel signifie celui qui est né à Babylone. Comme il était né à Babylone, on lui a donné le nom de Zerubbabel, c'était un nickname ou comme un nom, un surnom, parce que c'était lui le premier qui a décidé de prendre le premier groupe de gens qui voulaient rentrer à Jérusalem. Alors Zerubbabel va dire aux gens, ceux qui veulent rentrer, moi je connais les chemins, les gens vont commencer à rentrer avec lui. Ils vont arriver à Jérusalem, il y a la ruine partout, les temples détruits, il n'y a pas moyen de vivre même là-bas. Ils vont dire, l'équipe de Zerubbabel va dire, construisons les temples pour que la gloire de Dieu revienne à Israël. Vous devez savoir que pendant que les Israélites sont en captivité, tout ce qui les maintient dans l'espoir, c'est les histoires qu'ils ont écoutées de la gloire de Sion, de la gloire de Jérusalem. Imaginez que celui qui nous a déportés en tant que Goma, nous restons pendant 70 ans, les enfants qui naissent là-bas, ils ne connaissent rien de Goma. Tout ce qu'ils connaissent, ce sont les histoires. Trois paillotes, ils connaissent Yaville, Yarompo-Tchoukoudou, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils disent, quand tu vas à Rompo-Tchoukoudou, tu vas tourner, tu vas trouver un monsieur qui pousse une trottinette en bois. N'est-ce pas? Alors imaginez des enfants qui naissent avec ces histoires de la gloire de Jérusalem, de la gloire du temple, de la présence du Seigneur. Et ils se disent, quand nous rentrerons, c'est là, nous allons voir la gloire. Quand il rentre avec Zerubbabel, c'est la déception totale. Imaginez que nous rentions, il n'y a plus de Tchoukoudou, il n'y a plus de rond-point. Tout est détruit. Il y a seulement des lapins qui passent dans la ville. Vous allez dire, est-ce que c'est le Goma dont on nous a parlé ou c'est un autre? C'est ce qui se passe avec ces gens. Et ils décident de commencer par construire le temple pour que la gloire de Dieu revienne. Ils vont construire le temple. Mais quand ils vont finir à construire le temple, la gloire de Dieu ne revient pas. Ils vont se retrouver avec un bâtiment physique, mais sans la présence du Seigneur. Imaginez que nous puissions construire ce temple qui est joli, mais qui n'est pas Dieu dans ce temple. Quelle serait la différence entre ce temple et une salle de fête de mariage? Ou ce temple avec un stade de football? Ce qui rend ce temple différent est que nous savons qu'il y a la présence de Dieu ici. Et je vous dis, mes chers amis, toutes les églises où vous allez, ce qui rend l'église différente, c'est s'il y a la présence de Dieu là-bas. Ok, chacun a mis son mot, je ne vais pas mettre le mien. S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est autre chose, ce n'est pas le temple du Seigneur. Alors, l'histoire de Zerubbabel va se finir avec une déception. Qu'ils ont construit un bon temple, mais la présence de Dieu ne descend pas. Si vous lisez Salomon, vous allez voir que quand Salomon a fini à construire, la gloire de Dieu est descendue et les gens ont expérimenté. Les Israélites voulaient refaire cette histoire, ça n'a pas été fait. Ils vont être déçus, certains vont rentrer. 60 ans plus tard, il y aura une deuxième personne qui va dire, nous allons encore rentrer, il s'appelle maintenant Esdras. Jusque-là, on est ensemble. Esdras va aussi prendre un deuxième groupe pour rentrer à Jérusalem parce qu'ils ont l'autorisation de Cyrus, mais maintenant Cyrus est mort, il y a un nouveau roi, Artaxerxe. Si vous pouvez prononcer ça, bonne chance. Disons le roi des Perses. Esdras va maintenant aussi aller avec un deuxième groupe. Ils vont trouver que le temple est déjà construit. Esdras va dire, pourquoi le temple est construit et il n'y a pas la présence du Seigneur? Il va dire, c'est parce qu'il n'y a pas la parole. Esdras va faire une copie de la parole et va venir lire le Torah à tout le monde. Ils lisent la parole pour rétablir la parole. Et les gens font, ils viennent ensemble pour prendre une décision que nous allons obéir. Ce qu'il va lire, c'est le livre de Deutéronome, qui est le résumé de ce que Moïse avait donné comme instruction au peuple d'Israël. Il va le lire Deutéronome. Et si vous lisez Deutéronome 28, vous allez voir tout ce que Dieu a dit, ce qu'il ferait si les gens obéissent et ce qu'il ferait si ils désobéissent. Et ils vont dire, nous prenons un nouveau engagement pour servir le Seigneur. Même après cet engagement, la gloire de Dieu ne descend pas. Ils ont un bon temple, ils ont la parole, mais pourquoi la gloire de Dieu n'est pas manifeste? Le livre d'Esdras va aussi s'arrêter avec une déception. On a déjà construit le temple, on a déjà donné la parole et les gens ont pris un engagement que nous allons cette fois-ci nous engager, mais la gloire de Dieu ne descend pas. Et là, c'est fini le livre d'Esdras. Maintenant, avec cette déception, certaines personnes vont dire, en tout cas, c'est un mensonge ce qui se passe à Jérusalem. Nous allons rentrer en captivité. Nous allons rentrer dans le royaume perse. Un groupe de gens va se rebeller et commencer à rentrer dans la captivité. Parmi ces groupes, il y aura les cousins de Néhémie qui vont aussi rentrer. Et c'est là où le livre de Néhémie commence. Avec ces cousins qui viennent de retourner de ces déceptions et qui vont venir à raconter à Néhémie ce qui se passe là-bas. Et si vous lisez Néhémie chapitre 1, vous allez voir que le livre de Néhémie commence avec cette histoire de ses frères qui viennent lui dire « Il n'y a plus de gloire à Jérusalem. Il y a des bandits qui viennent. Les murs sont détruits, les portes sont brûlées. » Et ils vont lui faire une description macabre de Jérusalem. Et là, Néhémie va commencer à pleurer et à prier. Pendant 3 mois, Néhémie va prier et il va pleurer pour dire « Toute cette histoire que j'avais entendue sur mon peuple n'existait pas. » Imaginez qu'on vous ait raconté l'histoire de Goma, comment Goma est grand. Et quand tu te reviens, tu te retrouves comme si tu étais dans mon village natal. Je ne vais pas le dire. Tu seras déçu. La déception sera totale. On t'a décrit des choses. Nous avons eu des histoires de filles qui veulent se marier et un garçon lui dit des choses. D'ailleurs, moi, je suis le petit frère de Tshisekedi, tout ça. Il lui raconte des histoires. La fille pense que Elle va aller là-bas et tout ce qu'elle va avoir à faire, ce sont des jets privés. Mais quand elle arrive là-bas, déception totale. C'est ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Et Néhémie va réaliser pour la première fois qu'il a cru dans une histoire qui n'existe pas. Une histoire de Sion, une histoire de la gloire de Jérusalem, mais cette gloire n'est pas là. Combien d'entre nous ont déjà cru dans l'histoire de la gloire de Dieu qui n'est plus là? La gloire d'un Dieu qui a agi, mais qui n'est plus là et on est resté avec un bâtiment et avec un texte. Néhémie va commencer à pleurer pendant 3 mois. C'est là où nous sommes maintenant, nous allons lire. Tout le monde est avec nous. Vérifie si ton voisin est encore avec nous. Il est là ou elle est là. Maintenant, lisons. Ayez ça en tête. Tout ce que je viens de raconter, ayez ça en tête. Nous lisons Néhémie chapitre 2, du 1er au 8e verset. Néhémie chapitre 2, nous lisons du 1er au 8e verset. Je suis en train de lire dans la version 8 secondes. Alors, Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Au mois de Nissan, le 8e année du roi Artaxerce, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi es-tu de mauvais visage? Pourquoi pourtant tu n'es pas malade? C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. J'ai répondu au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont enterrés mes pères est détruite et que les portes de ma cité se consument par le feu? » Le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priais Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, « Si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il? Combien de temps? Et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser parler. Le roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois et des charpentes pour le porte de la citadelle près de la maison, pour la muraille et la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Je pense qu'avec ce que j'ai raconté, vous comprenez déjà le contexte dans lequel Néhémie se présente auprès du roi. Il est chagriné par les ruines de Jérusalem. Néhémie était les chansons du roi. Donc il était chargé de la sécurité, de la nourriture du roi. La sécurité rapprochée du roi. C'est un poste clé, un poste de confiance. Et Néhémie va se présenter devant le roi. Et le roi va lui poser la question, comment je peux t'aider? Et Néhémie avait une stratégie bien ficelée. Et là, c'est quelque chose d'important que les gens ne voient pas. Néhémie priait pendant 3 mois. Mais pendant ces 3 mois aussi, il était en train de créer une stratégie de comment il va résoudre le problème. À part la prière, il cherchait aussi quoi? La solution. Imaginez que le roi avait posé la question à Néhémie, comment je peux t'aider? Elle dit, bon, je ne sais pas, c'est toi le roi. Donc, cherche une solution. Le roi allait penser que cette question n'est pas sérieuse. Mais quand le roi demande à Néhémie, que puis-je faire? Néhémie prie très rapidement dans son cœur au verset 4 et donne directement 1, 2, 3, 4, 5 choses que le roi peut lui faire pour qu'il réussisse et le roi lui accorde et c'est comme ça qu'il va apprendre. Maintenant, tirons quelques leçons. Il y a beaucoup de détails historiques que je devrais donner, mais je vois que le temps avance très rapidement. Quelques clés. La première clé que nous apprenons de la vie de Néhémie, si nous voulons faire une différence pour le royaume, c'est la passion pour la maison de Dieu. Être passionné pour les choses de Dieu. Être passionné pour la maison de Dieu. Si tu n'es pas passionné pour la maison de Dieu, ça signifie que tu ne vas pas faire de grandes choses pour Dieu. Je vais vous donner un exemple. Combien de gens ici, si le pasteur va décider, Festo et les autres, décider qu'il n'y aura pas culte, nous fermons Gomaville pendant quelques mois. Il y a des gens qui vont trouver, qui disent, waouh, nous sommes déchargés des responsabilités de nous réveiller le dimanche. Donc, on est libre. Combien d'entre vous, si on vous dit, aujourd'hui, il n'y aura pas d'offrande, l'église vous demande de rentrer avec votre argent, aller utiliser ça autrement. Combien de gens vont dire, yes, yes. Et combien de gens vont dire, non, nous devons donner à l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de gens, mes chers amis, ne sont pas passionnés par les choses de Dieu. Et c'est pourquoi l'église n'avance pas. Les gens viennent à l'église par formalité. Les gens viennent à l'église par histoire, parce qu'ils sont nés dans ces rythmes-là d'aller à l'église chaque dimanche. Et on a les habits de dimanche. Si on ne les porte pas, ça va s'abîmer. Donc il faut aller à l'église. Certains d'entre vous portent les habits de dimanche, inclus-moi. Et je suis en train de dire ça pour dire, si tu veux faire une grande différence pour le royaume, il faut d'abord être passionné par ça. Combien de gens pensez-vous les frères de Néhémie avaient raconté ce qui s'est passé à Jérusalem? Je suis sûr qu'ils ont raconté cette histoire à beaucoup de gens. Mais combien de gens ont écrit que leur cœur était brisé en entendant cette histoire? Combien d'entre nous, votre cœur peut être brisé quand on vous dit que la paroisse sointe, quand c'est qu'on avoue, combien de gens ne peuvent pas dormir parce qu'on a dit que la paroisse sointe? Allô? Certains d'entre vous vont dire, est-ce que ça c'est mon problème? Comment ça c'est mon problème? Tu n'es pas passionné, mais la passion signifie que quand tu attends un problème, ça devient ton problème. Ça c'est la passion. La Bible dit de Jésus que la passion de la maison du Seigneur les consumera. Et c'est comme ça que Jésus a fini par fouetter déjà au temple. Ce n'était pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il aimait tellement la sainteté du temple qu'il est arrivé, il a trouvé le désordre qui était créé par un système d'offrandes, et il a fini par chasser ces gens. Et ces gens n'étaient pas là-bas pour une mauvaise volonté. Il était interdit de donner en offrande l'argent qui avait l'image de César. Nous lisons dans Lévitique qu'il y avait des critères pour les animaux qu'il fallait donner, les animaux sans tache, les animaux sans défaut. Alors, avec le temps, un marché s'est créé autour du temple. Imaginez que nous puissions décider ici que vous n'allez pas donner, tout ce que vous allez donner ici à Gomaville, ça sera en euros. On ne va pas recevoir d'autres offrandes qui sont en euros. Qu'est-ce qui va se passer? Les échangeurs vont venir ici à l'église avec les euros. Comme ça, vous venez avec vos francs congolais et avec vos dollars, vous donnez pour avoir quoi offrir. C'est ce qui s'est passé au temple. Les gens venaient, ils échangent, ils viennent, ils achètent les animaux qui étaient dignes. Alors, un marché s'est créé dans le temple et autour du temple, un marché créé par les sacrifices. Et Jésus trouve ça, il dit, ce n'était pas ça l'idée originale. C'était pas ça. Et il va fouetter les gens parce qu'il était passionné. Je ne demande pas que tu puisses fouetter les gens. On va t'arrêter. Et on va te publier aussi. Aujourd'hui, certaines des punitions, c'est de te publier. Si on te publie, c'est une très grande punition. On te camère, on te publie. Alors, Néhémie est passionné. Est-ce que tu es passionné par les affaires de Dieu? Comme tu te vois. Je sais même où soit-il, comme tu te vois. Est-ce que tu es passionné par les affaires de Dieu? Combien de gens étaient très contents pendant la COVID quand on ne venait pas à l'église? Allô? Et comme on avait une justification, personne ne va pas te demander. Dire, non, on a dit rester chez vous. Et vous trouvez les gens qui ne sont pas restés chez eux, ils sont dans leurs affaires, dans les business. Mais quand ils étaient dans l'église, non, restez chez vous. Distanciation sociale. Est-ce qu'on est passionné par les choses de Dieu? Est-ce que nous pouvons apprendre une mauvaise nouvelle qui concerne le royaume et nous ne pouvons pas manger? Parce que nous avons la passion. La première chose, si tu veux faire une différence, il faut être passionné, zélé. Et si vous voyez les gens que Dieu a utilisés puissamment, c'était des personnes passionnées. Je vous donne juste trois exemples. Moïse. Moïse était passionné par la liberté de son peuple qu'il a fini par tuer un Égyptien. Ça, c'est la passion. Jusqu'à ce que cette passion a été mal orientée, il a tué quelqu'un, il l'a enterré dans les sables et il a fui. Et pendant 40 ans, Dieu maintenant l'a enseigné, voici comment il faut orienter ta passion. Paul était tellement passionné par les affaires de Dieu qu'il a emprisonné des gens et il a pris des lettres pour aller prendre ceux qui avaient fui pour qu'ils amènent en prison. Et Dieu l'a pris, il a réorienté sa passion. Et il est devenu le plus grand missionnaire qui a écrit la moitié de l'évangile. Vous voulez un autre? Le temps passe. Alléluia. J'espère que vous êtes en train d'être bénis. La passion que vous avez, est-il possible que cette passion est mal orientée? Est-il possible, pose-toi la question, est-il possible que cette passion que tu as est mal orientée? Il faut qu'on la réoriente vers les bonnes choses. Il y a certains d'entre nous qui ne peuvent pas bouger ici, mais il suffit qu'on mette un sujet politique. La personne va parler plus que tout le monde. Alors qu'ici à l'église, on a ça où le papa a ses mains. Il y a des gens ici qui ne parlent pas, mais quand c'est le football, ils peuvent se battre. Ça signifie que nous avons tous les passions. Il y a des gens qui sont ici calmes. Mais quand il s'agit de parler dollars, tu vois, est-ce que c'est la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? Quand il s'agit de partager la commission, allô? Il y a des gens ici qui ne parlent pas. Mais quand il s'agit de son intérêt personnel, ça signifie que tout le monde ici, même nous qui ne bougeons même pas quand on chante, quand on nous demande de danser, nous sommes passionnés. Mais où est orientée ta passion? Peut-on réorienter cette passion dans la bonne direction? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on va faire seulement deux points. Premier point, la passion pour le Seigneur, de une vie d'intégrité. Nous apprenons à Néhémie qu'il était passionné, mais aussi que Néhémie avait une vie d'intégrité qui lui a donné la crédibilité auprès du roi. Je vous ai dit que Artaxerxès était l'empereur perse. Certains, nous tous, nous n'avons jamais vu des empereurs parce que les empires sont partis il y a longtemps. Mais nous avons quand même eu une idée ces quelques semaines avec la mort de la reine d'Angleterre, comment la monarchie célèbre la grandeur d'une personne. Et sera enterré demain. Tous les présidents sont en train d'aller là-bas, la plupart. Bon, il y a certains qui doivent être là. Pour des raisons que je ne connais pas. Revenons ici, allô, je n'ai dit personne, ça va. Donc si vous avez conclu à quelqu'un, c'est votre problème. Alors, si vous regardez l'enterrement de demain, qui sera fait, je pense à Westminster Abbey, vous allez voir la démonstration de la grandeur d'une monarchie. Et ça, c'est un roi, une reine. Maintenant, lui était empereur. Donc tu n'es pas seulement roi d'un peuple, mais tu contrôles tout un territoire, l'Asie mineure, Proche-Orient, Moyen-Orient, et même une grande partie de l'Extrême-Orient était contrôlée par ce roi, cet empereur. Imaginez maintenant que cette personne remarque que son serviteur est triste. Quelle relation Néhémie avait avec le roi? Pour que le roi remarque, avec tout ce qu'il avait comme responsabilité, que mon serviteur est triste. Ça signifie que Néhémie avait une bonne relation de crédibilité jusqu'à ce que l'empereur pouvait remarquer ça. Il avait un travail à faire. On va conclure par dire, quand Néhémie répond au roi, Néhémie va demander trois choses que je veux que chacun d'entre nous puisse avoir pour avoir de l'influence. Si tu as ces trois choses que Néhémie a demandé au roi, tu vas avoir de l'influence. La première des choses, Néhémie dit au roi, donne-moi une lettre. Donne-moi l'autorisation d'agir. Donne-moi la permission d'agir. Néhémie était une chanson du roi. Mais tous ces gens dans les royaumes, les autres gouverneurs ne les connaissaient pas. Imaginez que Néhémie avait prié, il avait la passion, et il voulait reconstruire, et puis il se présente à Juda, il dit, bon, je viens reconstruire. Vous pensez que les autres, Sanballat et Tobie, qui sont au chapitre 4, allaient lui dire quoi? On a tout cas, voilà. Mais Néhémie est très intelligent, qui dit, même si j'aime Dieu, même si je suis passionné, j'ai besoin de l'autorisation de l'empereur pour aller faire une différence. L'empereur va nommer Néhémie gouverneur. Je vous dis, mes chers amis, il y a une différence que tu ne peux pas faire sans que tu n'aies l'autorisation de faire cette différence. Est-ce que vous savez que nous pouvons être ici, nous prions tout ce que nous voulons prier, mais quelqu'un qui a la clé du budget de l'État peut décider de consommer toutes nos économies en une seule journée. Allô? Quand Dieu nous dit « assujettissez la terre », il voulait dire « soyez des responsables, ayez l'autorisation, entrez dans tous les domaines de la vie et faites la différence. » Nous pouvons prier pendant une semaine de jeûne, mais quelqu'un peut se réveiller qui a la signature et signe quelque chose qui va perturber toute notre semaine de jeûne. Allô? Et Néhémie comprend ça, il dit « je suis spirituel, mais j'ai besoin de la lettre du roi ». Et le roi va lui donner les lettres adressées à tous les gouverneurs. Quand Néhémie arrive devant la porte, il n'a pas besoin de dire que je suis Néhémie. Il présente tout simplement la lettre. Et la lettre ouvre la porte. Mes chers amis, le monde que nous voulons influencer n'a pas besoin des histoires. Parfois, ils ont besoin d'un badge. Juste un badge. FBI. OK, pas FBI, mais un badge qui montre que vous avez l'autorisation de faire ce que vous voulez faire. Vous savez que si vous devenez gouverneur de cette province, il y a des choses que vous pouvez faire et répondre à des milliers de prières de beaucoup de gens. Si vous devenez maire de la ville, avec tout ce que nous avons comme difficulté dans cette ville, vous pouvez prendre une seule décision qui va être une réponse à la prière de beaucoup de gens. Le peuple d'Israël voulait rentrer en Israël quand ils étaient en captivité. Mais il ne pouvait pas pendant 70 ans. Mais ça a pris seulement la décision de Cyrus qui a signé un décret pour dire, mes chers amis, celui qui veut rentrer, rentrer. Imaginez une prière de 70 ans qui est répondue par une simple signature. Quelle influence! Je veux que nous soyons des chrétiens qui ont ce genre d'influence, qui vont entrer dans tous les domaines de la vie, que nous ayons des lettres d'autorisation pour faire les changements. Que nous ayons le pouvoir. Et Néhémie, à part la lettre, on lui donne toute une armée. On lui donne le chef d'état-major de l'armée pour l'accompagner. Il y a toute une caravane de chevaliers qui vont accompagner Néhémie. Parce qu'il y a des bandits au cours de route. Il y a des brigands. Il y a des kidnappeurs. Combien d'entre nous peuvent apporter l'évangile à Mabalako, là où il y a des kidnappeurs? Tu ne vas pas y aller. Allô? Donc, il y a des missions du Seigneur qui ont besoin d'être protégées par des armes. Et on voit ça beaucoup de temps dans la Bible. Et même quand Néhémie va construire le mur, ils vont construire ça pendant 52 jours. L'opposition va être très grande que les gens vont construire avec une arme à la main. Allô? C'est dans la Bible. La première chose que nous voyons est que Néhémie obtient du roi la lettre, l'autorisation d'agir. Quand tu viens devant Dieu, qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Nous devons commencer à demander à Dieu des choses qui peuvent faire la différence. Je veux que nous soyons des chrétiens qui viennent à Dieu et disent, Seigneur, je voudrais avoir l'autorité de changer cette ville. Je voudrais avoir l'autorité de faire une différence dans cette paroisse. Je voudrais avoir l'autorité. Certaines choses demandent que nous ayons l'autorité, mais quelle que soit la passion que nous avons. On est ensemble. Donc la première des choses que Néhémie demande, c'est l'autorisation. La deuxième des choses, Néhémie demande les ressources matérielles et financières. Et le roi va lui donner une lettre adressée à Asaph. Asaph, c'était le gardien de la forêt du roi. Donc où tous les bois étaient coupés pour aller construire. Il faut que soit Néhémie amène l'argent, soit qu'il amène quelque chose. Le roi va lui donner une lettre, lui donner à Néhémie tout ce dont il aura besoin. Il a besoin de construire pour Dieu. Mais c'est un roi qui n'est pas de Dieu, qui lui donne l'autorisation d'avoir accès à des ressources. Alors, comment nous utilisons nos relations? Il y a des ressources que nous n'avons pas, mais nous avons des relations qui ont ces ressources-là. Néhémie avait la passion, il était passionné pour construire, mais il avait la relation avec la personne qui avait les ressources et il a utilisé cette relation. La plupart d'entre nous, nous pensons que si nous voulons faire une différence, il faut que les ressources soient les miennes. Bien, John, hésite, c'est mon poche. Non, non, parfois les ressources n'ont pas besoin d'être les miennes. Tu es seulement le tien. Tu as seulement besoin d'être un catalyseur. C'est ce que Néhémie va être, un catalyseur pour que les ressources soient canalisées. Et il va amener cette lettre à Asaph. Asaph va lui donner tout le bois dont il a besoin. Mes chers amis, nous devons avoir l'autorisation. La deuxième chose, on ne peut pas changer le monde sans les ressources. Les ressources matérielles, les ressources financières, c'est impossible. Je suis passionné par ces choses parce que ça fait longtemps que je suis dans les chambres de prière. Et parfois, on prépare une retraite, nous prions, nous jeûnons pour la retraite, et puis après la retraite, on appelle maintenant au téléphone les gens qui ne sont pas dans la retraite pour qu'ils nous donnent l'argent pour que la retraite continue. Allô? Les gens qui ne sont pas dans la retraite, mais c'est eux qui ont l'argent. S'ils ne donnent pas la retraite finie, la retraite spirituelle va se finir. Alors vous commencez à appeler des gens qui ne sont pas dans la retraite, qui ne sont même pas chrétiens, et qui commencent à vous poser des questions stupides. Mutazifa ni nikwanza. Et tu es obligé de répondre. Tu vas t'humilier avec toute cette spiritualité. Tu sais, nous avons des gères, nous sommes en train de voir comment le Seigneur va changer. Dis bon, passez à la boutique qu'on vous donne un sac de riz. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette personne va être une réponse à la prière parce qu'il a accès quoi? Aux ressources. Je vais vous donner une révélation, mes chers amis. Je vais vous donner une révélation. Quand Jésus est né, la Bible dit que les mages sont venus voir l'enfant Jésus. Pourquoi pensez-vous que les mages sont venus? Ne répondez pas. C'est juste une question rhétorique. Moi, je vais vous dire pourquoi. Quand les mages sont venus voir l'enfant Jésus, ils ne sont pas venus voir Jésus. Ils sont venus voir le roi qui est né. Et la Bible dit qu'ils sont venus avec des cadeaux. L'or, la sang et quoi? La myrrhe. Et les cadeaux, ils ont amené en sachant qu'ils venaient voir un roi. Et c'est pourquoi quand ils sont arrivés, ils ne sont pas allés chercher Jésus dans l'étable avec les bergers. Ils sont allés à la cour. Parce que le roi naît à la cour. Alors, quelle sorte de cadeau tu amènes à la cour du roi? C'est un cadeau que tu peux donner à un roi. Alors, quand ils vont aller trouver Jésus, ils vont donner. C'était des ressources que Dieu a fait pour transférer pour que les parents de Jésus aient les ressources pour faire grandir Jésus. Et c'est les mêmes ressources qu'ils ont utilisées pour fuir en Égypte et rester là-bas pendant des ans. Dieu a fait un transfert de ressources pour que sa mission réussisse. Toute le fois que Dieu t'appelle, il doit y avoir un transfert de ressources. Tu peux prier tout ce que tu veux, mais sans les ressources, mes chers amis, on va nous raconter ici à 2040. Nous serons en train de raconter les mêmes histoires. Combien d'entre nous ont des amis qui racontent des rêves et tu les connais depuis 15 ans? Les mêmes rêves. Tu sais, un jour, je ferai ceci. Et tu vois, la calvitie commence à venir. C'est un problème de ne pas avoir accès aux ressources. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu demandes l'argent pour manger ou tu demandes que Dieu te donne des ressources pour construire? Nous voulons construire comme avant. Nous voulons construire le temple. Nous aurons besoin des ressources, du ciment. Nous aurons besoin des choses. Et c'est ce que Néhémie demande au roi. Imaginez que Néhémie était allé jusqu'à Jérusalem et dit, je suis venu construire. Ok, on commence par où? Je ne sais pas. Il est venu avec les ressources. Le bois est là. Je l'ai déjà amené. Les lettres sont là. L'or est là. Et les gens maintenant ont amené leur contribution que nous voyons au chapitre 3. Les familles ont décidé de choisir chacun là où ils vont travailler. Dernier lieu, Néhémie demande du temps au roi. Et le roi lui donne un congé. Il lui dit seulement, dis-moi quand tu vas revenir. À supposer que le roi allait dire, ok, j'ai besoin de toi ici, envoie quelqu'un d'autre. On n'aurait pas cette histoire de Néhémie. Mais il avait la grâce auprès du roi et la faveur que le roi va lui donner du temps. Mes chers amis, vous avez besoin du temps pour faire le travail du Seigneur. C'est pourquoi même, la raison pour laquelle tu dois vivre longtemps, ce n'est pas seulement parce que tu as peur de mourir. C'est parce que la mission que Dieu t'a donnée a besoin du temps pour s'accomplir. Je vous donne une raison pour laquelle tu dois vivre longtemps. Mes chers amis, nous devons vivre longtemps. C'est une révélation spirituelle, une vie longue. C'est très important pour l'avancement de l'Évangile. Imaginez tous ces rêves que vous avez pour l'Évangile et que tu meurs. Quelle perte pour l'Église. Quelle perte pour Gomaville. Tu ne dois pas mourir. Ok. Yeah. Il faut vivre. Alléluia. Nous devons vivre, nous avons besoin du temps pour accomplir le royaume. Maintenant, imaginez que vous ayez l'autorisation, vous ayez les ressources et que vous ayez le temps. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien ne peut nous arrêter si nous avons les trois choses. Le problème est que nous nous consacrons au domaine spirituel. Mais si nous voulons assujettir la terre, comme c'est dit en Genèse, nous devons développer ces trois choses que Néhémie a demandé au roi. J'ai besoin de l'autorisation, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin du temps. Quand tu pries à Dieu, qu'est-ce que tu lui demandes? Tu as besoin de quoi? Si Dieu te disait, comme il a dit à Néhémie, comment je peux t'aider? Je te donne une sujet de prière. Dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu m'envoies quelque part où je vais avoir une bonne influence. Une lettre. J'ai besoin de ressources. J'ai besoin du temps. Et si les ressources, il faut savoir si c'est combien. Alors, mes chers amis, le peuple d'Israël a vécu avec une histoire de gloire passée. Mais cette histoire s'est effondrée. Parce que si vous lisez, je vous ai dit, Zerubbabel finit par une déception. Ezra finit par une déception. Malheureusement, le livre de Néhémie finit aussi par une déception. Ils vont construire le temple. Ils vont construire, mettre la parole. Ils vont construire le mur. Mais la gloire de Dieu ne va pas toujours revenir. Néhémie va faire un autre engagement. Les gens vont s'engager, ils vont signer. Mais ça ne va pas marcher. Ils vont continuer à vivre dans leur vie jusqu'à ce que Néhémie se fâche. Il commence à emprisonner les gens, fouetter les gens. Même la Bible dit, il commence à arracher les cheveux des gens. Imaginez un pasteur qui commence à arracher les cheveux. Comment vous restez à Gomaville? Pas les perruques, les cheveux. Néhémie va essayer d'obliger le peuple d'Israël à obéir à Dieu, mais ça ne va pas marcher. Il va être tellement déçu qu'à la fin du livre de Néhémie, Néhémie termine par une déception où Néhémie demande à Dieu, sauve-moi. Sauve-moi. Moi, je vois que ces gens ne peuvent pas être sauvés. Quand même, hein, sauve-moi parce que moi, j'ai essayé. C'est comme ça que le livre de Néhémie termine. Maintenant, une dernière chose. Les prédicateurs disent, en terminant, une dernière chose en allant vers la fin. Donc, il me reste deux. Une dernière chose. Si vous prenez la Bible, l'Ancien Testament, d'une manière chronologique, donc les livres qui ont été écrits, les premiers, les livres de Job, et puis les autres livres, comme ça a été écrit. Les derniers livres, en 400, je pense que c'est 425 avant Jésus-Christ, c'est les livres de Néhémie, Esdras et Néhémie. Les derniers livres dans l'Ancien Testament, en termes de chronologie, ce n'est pas les livres de Malachie, mais c'est les livres de Néhémie. L'Ancien Testament termine avec une grande déception d'un peuple qui veut artificiellement créer la présence de Dieu en construisant un bâtiment, en mettant le texte de la parole et en construisant un mur. Mais Dieu ne revient pas. Et ça devient la dernière révélation de Dieu. Et Dieu va être silencieux pendant 400 ans. Dieu ne va pas parler à son peuple. Pendant 400 ans. Il y a 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament, jusqu'à ce que Jean-Baptiste va revenir pour dire aplanisser le chemin du Seigneur et va introduire Jésus. Cette prière-là que Néhémie fait, il dit, mon peuple a déjà péri. Il n'y a pas moyen que nous puissions ramener la gloire d'Israël. Néhémie prie. Et pendant 400 ans, Dieu ne dit rien. Et il vient répondre par son fils Jésus-Christ. son fils Jésus-Christ qui vient être l'incarnation de cette gloire qui était recherchée dans les bâtiments, dans les textes, dans les murs. Il dit, la gloire du Seigneur n'est pas dans un temple. La gloire du Seigneur n'est pas dans un texte. La gloire du Seigneur n'est pas dans un mur. Mais la gloire du Seigneur est dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons chercher à créer la gloire en construisant des bons bâtiments. Je veux revenir pour vous dire qu'il faut donner. Il faut donner. Mais cela ne va pas créer la gloire du Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur est dans une personne. Et cela est démontré en Jean chapitre 4, quand Jésus parle à la femme samaritaine, qui lui dit, nous devons adorer ici. Jésus lui dit, un temps est venu, le temps vient et le temps est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront plus le Seigneur, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Jésus déplace la recherche de la gloire dans un bâtiment, dans un endroit physique, jusque dans nos cœurs. C'est là où se trouve la gloire du Seigneur. Et c'est là où cette gloire doit l'esplendir. Que le Seigneur bénisse sa parole.